Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes donc dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, à la page 13 sur le polycopier, donc qui couvre les chapitres 21 à 25. Page 13, en haut de la page. Donc, c'est l'évangile qui parle au début des invités à la noce. Le royaume des cieux est semblable à un roi, donc, qui fait faire les noces de son fils. J'ai déjà expliqué un peu la dernière fois, à partir des pères de l'église, que cette noce représente plusieurs choses. D'abord, elle représente le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire l'union de l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, se marie avec notre humanité. Il devient homme pour que l'homme devienne Dieu, comme dit Saint Augustin. Alors évidemment, faire attention à la signification de cette phrase, j'en ai déjà parlé souvent. Et donc, celui qui est invité au festin doit arriver avec la robe nuptiale. Il aperçut là, le roi entra pour voir qui était à table, verset 11, du chapitre 22 de Saint Matthieu. Il aperçut bien un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale et lui dit, mon ami, pourquoi êtes-vous rentré ici sans avoir la robe nuptiale? Et le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs, des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, cette robe nuptiale, c'est évidemment la vertu de charité. Elle représente aussi, chez les pères de l'Église, le peuple juif, c'est au milieu de la page 12. La nation juive ayant été rejetée, le peuple des gentils est invité au mariage. Donc, ceux qui avaient été les premiers invités étaient ceux qui ont fui les premiers appelés. Le roi envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, de l'union, c'est-à-dire de l'union entre la divinité et l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui étaient les premiers invités à ces noces, c'était le peuple juif. Mais ils ne voulurent pas venir. Ils trouvèrent des excuses et dirent, j'ai préparé mon festin, j'ai fait des tas de choses à faire, j'ai une ferme, j'ai mon négoce. Et ils se saisirent des serviteurs, ils les tuèrent, et ils tuèrent même le fils du roi, dans un autre texte parallèle. Alors le roi, ayant appris, fut irrité et va chercher d'autres personnes. Donc ce roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, voyant que les Juifs n'acceptent pas le mystère de l'incarnation, n'acceptent pas le mystère de la rédemption, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Donc au lieu d'accepter le Messie qui a pourtant été annoncé par les prophètes pendant 2000 ans, pendant même plus que ça, pendant 7000 ans ou 5000 ans, Il rejette notre Seigneur Jésus-Christ, donc le roi va chercher d'autres personnes. Les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et donc c'est le nouveau peuple catholique qui vient prendre la place, encore une fois, j'ai déjà expliqué ces choses-là souvent à partir des pères, qui vient prendre la place du peuple juif qui s'est montré indigne. Et n'oublions pas que, je vous l'ai déjà expliqué souvent, mais je pense qu'il faut insister là-dessus parce que c'est une chose qu'on oublie facilement, c'est que si les Juifs ont été indignes, ils ont été remplacés par les catholiques, mais si les catholiques sont indignes, ils sont remplacés par d'autres personnes. Hein. Et le bon Dieu va aller chercher d'autres catholiques qui ont certainement plus maintenant de, de conviction que les catholiques bien faibles, bien mous, bien libéraux, et qui sont les fruits de Vatican II. Donc attention à ça. Alors voyons à page 13, nous sommes en page 13 maintenant, voyons un petit peu, continuons l'exégèse de ce texte. Donc ici nous voyons d'autres interprétations données par les pères, ce mariage entre l'humanité et la divinité représente aussi un autre mariage, le mariage entre le Christ et l'âme. Rappelez-vous le texte du Cantique des Cantiques qui célèbre les amours de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu avec l'âme, avec son Église. Donc le mariage organisé par ce roi pour son fils représente aussi d'une part l'union du Christ avec l'âme, de l'âme du catholique à l'état de grâce, mais aussi l'union du Christ avec son Église. Voyons en haut de la page 13, anthropologiquement, si moralement parlant, le mariage donc représente l'union du Christ avec l'âme et les enfants représentent les bonnes œuvres. Dieu le Père a fait ce mariage pour le Christ, car en Judée, dans le monde entier, il a, par le Christ, répandu la doctrine évangélique et les sacrements, surtout celui de la Sainte Eucharistie. Donc il nourrit, il s'occupe des âmes, il les crée, et après il donne à ses âmes les choses dont ses âmes ont besoin pour pouvoir survivre et atteindre leur fin, savoir le ciel. Dieu avait invité les Juifs à ce mariage par Moïse et les prophètes, les serviteurs de Dieu, avant et après l'incarnation du Christ, pour qu'ils croient à cette incarnation, se repentent de leurs péchés, croyant au Christ et cherchant la grâce, ils puissent ainsi obtenir justice et salut. Donc on voit bien que le maître du festin a tout préparé, il le dit expressément. J'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes animaux sont engraissés, sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Donc il insiste. C'est le symbole cela représente les prophètes qui rappellent le Messie qui arrive et qui va inviter tous les membres du peuple élu à ce mariage magnifique, c'est-à-dire l'union de la divinité avec l'humanité, mais malheureusement, beaucoup refusent. Et les bœufs, et les veaux gras sont les riches provisions du banquet, dénotant les grandeurs des doctrines de l'Église. Ça représente les sacrements, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie. La graisse des bœufs symbolise la grâce, si vous voulez. Les mariages à l'époque, disent les pères, commençaient par un sacrifice, ont gardé des victimes de ce sacrifice pour le banquet. Ainsi, la fête du mariage du Christ, ici paraboliquement décrit, commença par le sacrifice de la croix. Donc, ce sacrifice de la croix est continué sur les autels par le sacrifice de la messe. Donc, de même que les Juifs étaient invités à venir s'associer au sacrifice de la croix de l'époque, en reconnaissant l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, nous aussi catholiques, nous sommes invités à la Sainte Messe pour assister à ce renouvellement d'ensemble du sacrifice de la croix qu'est la Sainte Messe. Mais malheureusement, encore une fois, la plupart des Juifs ont refusé ce Christ souffrant parce qu'ils voulaient un Christ glorieux, un Christ triomphant, un Christ guerrier. C'est ça, si vous voulez, ce qu'il faut absolument comprendre. C'est la raison pour laquelle la plupart des Juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ils pensaient plusieurs choses fausses. La première chose fausse auxquelles ils pensaient, c'est qu'ils voulaient un Christ, encore une fois, un Christ glorieux, alors que notre Seigneur Jésus-Christ arrive avec un Christ souffrant. Est un Christ souffrant, il voulait également un Christ et qui soit exclusivement au service des Juifs. Et ils ont refusé le Christ quand ils ont réalisé que le Christ était en fait venu pour sauver tous les hommes, pas simplement le peuple juif. C'est vrai qu'au début, pendant tout l'Ancien Testament, c'est le peuple juif qui est privilégié. C'est lui qui reçoit cette charge de transmettre les Écritures. C'est énorme comme charge. Mais avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, l'universalité de l'Église apparaît de façon très claire. Le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Alors là, du coup, beaucoup de Juifs ont refusé ce Christ sauveur universel parce qu'ils pensaient que seuls les Juifs seraient sauvés. Donc la ferme où les invités s'en vont, disent les pères en haut de la page 13, méprisant l'invitation signifie les choses
temporelle qui éloigne les Juifs de la foi dans le Christ et les choses célestes et poussant à tuer les serviteurs de Dieu puis le Christ lui-même. Et donc, il faut relire ce texte magnifique. Donc, c'est les 14 premiers versets du chapitre 22. Vous avez ça à la page 11. Je vais expressément de mettre le texte complet de l'évangile pour que vous puissiez suivre plus facilement ce cours. Donc, il faut bien comprendre que cette noce, c'est une noce pour chacun d'entre nous. Nous devons participer à la noce. Et pour pouvoir participer à la noce, ben, il faut être digne de la noce. On est tous appelés. Mais ne pourront rester dans la salle du festin que ceux qui ont l'habit nuptial. L'habit nuptial, encore une fois, ça représente d'une part le baptême, mais aussi les conséquences du baptême. Le baptême n'est pas suffisant pour le salut. Le baptême est suffisant pour le salut pour un bébé qui meurt juste après le baptême. Mais le baptême, en fait, ouvre la porte des sacrements. C'est pour ça que le baptême est tellement important. On a besoin après le baptême, puisque malheureusement on continue d'offenser le bon Dieu même après le baptême, on a besoin d'un sacrement spécial pour effacer les péchés commis après le baptême. C'est le sacrement de pénitence. Et on a besoin de nourrir notre âme constamment pour que notre âme soit renforcée pour la lutte contre les trois concupiscences, concupiscences de la chair, des yeux et l'orgueil. Et là, c'est le sacrement de confirmation, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Et ce texte est un texte facile à expliquer parce que justement, il nous aide, si vous voulez, à comprendre la réalité de ce banquet mystique auquel nous sommes tous appelés, pas simplement les Juifs, mais nous aussi. Alors, avançons un peu dans ces explications des pères. Le Christ, dans cette parabole, fait allusion au texte d'Isaïe, chapitre 25, verset 6. Voilà le texte. Le Seigneur des armées prépara sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de vin pris sur la lie, de viande grasse et pleine de moelle, de vin pris sur la lie et clarifié. Et un peu plus tard, en chapitre 30, le Seigneur enverra ses ondées sur la semence que vous aurez semée en terre, et le pain que donnera la terre sera délicieux et abondant. Vos troupeaux en ce jour paîtront en des vastes pâturages, et les bœufs et les ânes qui travaillent la terre mangeront un fourrage savoureux, vanné avec la pelle et le vent. Ceci représente la prophétie, si vous voulez, de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard de ses créatures. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas de nous créer, de nous lancer dans l'existence. Il nous donne les moyens, encore une fois, d'atteindre la fin pour laquelle nous sommes créés. Le ciel, j'ai déjà expliqué. Et donc, le Seigneur, reprenons un petit peu le texte des pères, et ces textes-là ne présentent pas de difficultés particulières. Pratiquement tous les pères expliquent ça de la même façon, c'est très beau. Apprenez que le Seigneur prépare toujours dans l'Église devant nous un riche banquet spirituel de saintes doctrines et de grâces, aromatisé avec des leçons sacrées, des sermons, des exhortations, et dans chaque genre de vertu, d'innombrables exemples des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, avec la réception fréquente des sacrements, surtout de la Sainte Eucharistie, qui est le froment qui fait croître les jeunes gens et le vin nouveau, les vierges. Vous voyez comment ce banquet spirituel, si vous voulez, comporte toute une série de plats différents. De même, dans un banquet, pour qu'un banquet soit beau et agréable à manger, il faut différentes nourritures, différentes sortes de nourritures. Mais de la même, ce banquet physique représente un banquet spirituel. Le banquet spirituel, encore une fois, c'est l'union de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'âme. Et donc, nous avons toute une série de sacrements à utiliser. C'est pour ça qu'il faut utiliser les sacrements. Le drame, je pense, ces dernières années, c'est que la plupart des catholiques ont arrêté d'utiliser les sacrements, tout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, puis pratiquement plus personne qui se confesse, ou très peu de gens se confessent dans l'église de Vatican II. C'est ça la catastrophe. Il m'est arrivé de parler plusieurs fois avec des vieux prêtres de l'église de Vatican II, qui ont catastrophé de ce qui arrive d'ailleurs, mais ils voient pas la nécessité de se battre, ils sont complètement découragés en fait, et ils me disent, mais personne. Tous mes fidèles ont plus de 60 ans, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, et j'ai pratiquement plus de confession. Quand je leur demande, combien de confessions vous avez, ils regardent avec des yeux ronds, ils disent, mais vous savez, on n'a plus de confession, plus du tout. Pratiquement plus personne ne se confesse. Et comme malheureusement les péchés sont devenus bien plus fréquents encore qu'avant, alors, mathématiquement, plus personne qui se converse. Par contre, tout le monde va communier, tous les assistants à la messe vont communier, ça veut dire multiplication, évidemment, exponentielle. Des communions sacrilèges, c'est mathématique. Donc il faut il faut demander justement ces grâces. Donc, les pères continuent d'expliciter ce texte d'Isaïe, du prophète Isaïe. Donc, ils expliquent que ces plats préparés représentent donc la Sainte Eucharistie, mais aussi le sacrifice de la messe, tout orné des ministres sacrés, des autels, des temples, avec l'harmonie de la musique céleste des anges, des orgues, et plein d'autres choses qui nourrissent, qui réjouissent, qui enivrent les âmes des fidèles au cours de ce pieux et continuel banquet. Il recite Isaïe, chapitre 66, de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Donc ce banquet représente, ces serviteurs qui sont envoyés à la recherche des invités au banquet représentent l'appel, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ à toutes les âmes, pas simplement aux âmes juives, à toutes les âmes. Tous les hommes sont appelés au banquet parce que personne ne peut se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, disent les pères, le Christ lui-même, incarné à la nourriture éternelle et la joie des fidèles, par son incarnation, il communique réellement non seulement tous les dons de sa grâce, mais lui-même dans sa totalité avec sa déité même. C'est pour ça que le sacrement de la Sainte Eucharistie va devenir la première conséquence du mystère de l'incarnation. Le sacrement de la Sainte Eucharistie, c'est quoi? C'est l'alimentation spirituelle de notre âme. C'est pour ça que le sacrement de la Sainte Eucharistie est le plus important des sacrements, parce qu'il ne donne pas simplement l'auteur de la grâce, non seulement la grâce elle-même, mais l'auteur même de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc il se donne lui-même dans sa totalité avec sa déité même, il leur donne à goûter, à manger, à jouir. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera de ce pain vivra éternellement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ dit je suis le pain vivant. Et quand il nous fait dire pendant la Sainte Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, la substance du pain physique disparaît pour être remplacée par la substance d'un autre pain spirituel qui va nourrir les âmes. C'est pour cela que ce pain étant surnaturel, descendu du ciel pour nous, qui mangera de ce pain vivra éternellement. De la même façon que si on mange un pain physique, on nourrit notre corps. Si on mange un pain surnaturel, super substantiel, eh bien ce pain va nourrir notre âme. C'est la signification qu'il faut donner à la partie de notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pas simplement donnez-nous aujourd'hui la nourriture physique dont on a besoin pour survivre, mais aussi la nourriture spirituelle. Si la nourriture physique est nécessaire pour la survie du corps, croyez-moi, la nourriture spirituelle est encore bien plus importante que cette nourriture physique. Pour cette raison, quand Isaïe prophétisait, on a vu les textes, les délices et la joie qui viendraient à l'Église par le Christ incarné, il se réjouissait et jubilait. Et il invita tous les chrétiens partout à se réjouir et à jubiler avec lui. Donc que les chrétiens et surtout les prêtres et les religieux prennent soin de nourrir leurs âmes en ces fêtes et de servir le Christ dans la justice et la sainteté, pour commencer avec le Christ, cette vie de béatitude qui sera rendue parfaite et consommée au ciel. Je crois qu'un des problèmes numéro un qui nous préoccupe, devrait nous préoccuper en tout cas, c'est le fait que souvent on communie sans réaliser ce qu'on fait, ce qui se passe. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de fidèles communient par exemple, et puis le prêtre a à peine quitté l'hôtel, ça y est, déjà ils sont sortis. Ils n'ont pas le temps de faire une action de grâce, disent-ils. Ils ont le temps de papoter sur le parvis de l'église pendant parfois des heures après la messe. Donc le degré de charité d'une paroisse se mesure au temps passé en action de grâce par les fidèles, puis exactement se mesure par la proportion de fidèles qui prend son temps pour une action de grâce. J'ai connu certaines paroisses, j'en ai une en tête, exactement, plus exactement. J'ai connu des paroisses où tous les fidèles faisaient leur action de grâce après la messe. Et donc j'avais le temps de revenir à la sacristie, d'enlever les vêtements sacerdotaux de la sacristie. Je revenais à la chapelle pour faire mon action de grâce personnelle, et il n'y a pas un fidèle qui bougeait avant la fin de mon action de grâce personnelle. Bon, je faisais, je ne pouvais pas trop la prolonger à ce moment-là, je terminais tranquillement après la messe, à plus tard, mais je faisais toujours 5 à 10 minutes d'action de grâce à ce moment-là, quitte à la terminer plus tard, pour pouvoir justement après voir un peu les fidèles. Mais les fidèles avaient compris l'importance de l'action de grâce. Et je pense que c'est ça le problème. Et si nous ne passons pas un temps nécessaire à l'action de grâce, il y a une espèce de mépris de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous risquons à ce moment-là de ne pas avoir avec sur nous la robe nuptiale et donc d'être rejetés par notre Seigneur Jésus-Christ et d'être liés aux mains et aux pieds et jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est la conclusion de ce texte de Saint Matthieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, tout le monde est appelé. Rappelez-vous le texte de Saint Thomas d'Aquin, de volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut saluer tous les hommes, mais de volonté conséquente, seuls les hommes qui meurent en état de grâce pourront accéder à la salle du banquet. Du banquet, il y a deux banquets. Deux banquets, il y a un banquet ici-bas, mais qui amène à un banquet éternel au ciel. Et pour aller au banquet éternel au ciel, pour accéder au banquet éternel du ciel, il faut être en état de grâce au moment de la mort. Attention. Ô vous, les apôtres, disent les pères, voyagez dans le monde entier. Allez dans tous les pays des nations pour y prêcher la foi du Christ et inviter tous les hommes à suivre cette foi. Le Christ demande aussi aux apôtres de transférer l'évangile des invités, les juifs, à toutes les nations. Donc tout le monde est invité, pas simplement les juifs, encore une fois, mais toutes les nations. Tous les hommes sont invités à, s'ils ont le vêtement nuptial, à venir se nourrir leurs âmes. D'où cet apostolat missionnaire. Une église qui n'est plus une église missionnaire est une église défaillante, moribonde. Et quand on voit les catastrophes actuellement dans l'église de Vatican II, ils ne veulent plus d'apostolat missionnaire. Ils ne veulent plus d'apostolat missionnaire parce que ils estiment qu'il ne faut pas faire de prosélytisme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne faut pas avoir peur, mes bien chers frères, d'avoir cet esprit missionnaire. Et encore une fois, le degré de charité d'une âme se manifeste par son apostolat missionnaire. Si on a compris que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique salut, si on a compris que personne ne peut se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on reste tranquillement assis les doigts de pied en éventail au coin du feu, sans chercher à amener d'autres âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on a rien compris. Vous voyez, il faut avoir cet apostolat missionnaire, c'est justement pour ça que l'église de Vatican II est devenue une église morte. Parce qu'il ne cherche plus à convertir les âmes. Puisque tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde a son Dieu et tout le monde a sa religion. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc il faut avoir cet apostolat missionnaire. Et ceux qui n'ont pas eu cet apostolat missionnaire, cet apostolat d'appel pour que d'autres âmes aussi puissent être sauvées, auront des comptes à rendre au bon Dieu. Que le bon Dieu va nous dire, vous aviez tout, vous avez la communion, vous avez la messe, vous avez la compréhension de ce qui se passe un peu dans l'église, dans l'église de Vatican II aujourd'hui. Nous l'avons quand même beaucoup, beaucoup plus reçu que d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez fait, tout ce que vous avez reçu? Je comprends, si vous voulez, qu'un pauvre père prêtre formé, qui est peut-être même pas prêtre, formé l'église de Vatican II, et rien à donner, bon, qu'il se décourage, c'est normal. Mais nous, attention, on a reçu beaucoup plus, et vous, fidèles, vous avez reçu beaucoup plus. Et si vous avez reçu beaucoup plus, vous devez beaucoup, beaucoup plus donner. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, mais celui qui a beaucoup reçu, il doit donner beaucoup, donc attention. Donc cette phrase des pères ici était importante. Donc le Christ demanda aussi aux apôtres de transférer l'évangile des invités, les juifs, à toutes les nations. Donc les premiers invités étaient les juifs, deuxième invité c'était les catholiques, troisième invité c'est ceux qui vont remplacer les catholiques libéraux d'aujourd'hui qui veulent baptiser les principes du monde moderne le monde moderne avec les principes de la révolution, les baptiser avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention. Le grand rêve, si vous voulez, des catholiques libéraux, c'est quoi? C'est de de mêler ensemble les principes de l'évangile et les principes de la révolution. Et on le voit très bien dans l'Église de Vatican II, de quoi parle-t-il ? Liberté, égalité, fraternité, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Bergoglio, c'est ce qu'il fait, il passe sa vie à ça. Il parle que de ça, liberté, égalité, fraternité. Au lieu de parler des évangiles, au lieu de parler des obligations que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande, au lieu de parler des commandements, nos obligations, il parle de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est l'évangile du monde, c'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, continuons les explications des pères, donc ces chemins aussi par lesquels les serviteurs passent. Donc, sur verset 10, les serviteurs s'en allèrent alors par les chemins rassemblant tous ceux qu'ils trouvèrent bons et mauvais. La salle des noces fut remplie de convives. Donc ces chemins, en bas de la page 13 sur le polycopier, sont les erreurs variées, contradictoires et les sectes des gentils, détruites par les apôtres. Le roi qui entre dans la salle pour voir ceux qui étaient à table représente Dieu qui viendra pour le jugement général à la fin des mondes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin du monde, viendra, et pour commencer à la fin de notre vie, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, on le verra déjà à la fin de notre vie, au moment de la séparation en nous de corps et de l'âme, eh bien on verra notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on sera jugé par lui. Et il nous demandera déjà des comptes, hein. Rends compte de ta gestion. Et on aura d'autres comptes à rendre aussi, cette fois-ci publiquement, au moment de la fin du monde, lors de la résurrection générale, du jugement général. Le vêtement nuptial, ça c'est important. Le vêtement nuptial n'est pas la foi, comme le disent les hérétiques, car l'invité n'aurait pas pu rentrer dans la salle du festin sans la foi, mais la charité, la sainteté de vie. Donc c'est intéressant, vous voyez, les pères disent qu'on peut rentrer dans la salle du festin simplement avec la foi. La foi est le minimum syndical, en quelque sorte, pour parler vulgairement, le minimum c'est la foi, pour rentrer dans la salle. Mais pour pouvoir participer au festin, ça suffit pas. Vous rentrez dans la foi dans la salle du festin par la foi, mais pour pouvoir manger des nourritures spirituelles préparées par le bon Dieu pour chacun d'entre nous, il faut rajouter à cette foi la charité, qui est la forme de la foi. Sinon, la foi est une foi informe, absolument incapable de nous nourrir. Comme quelqu'un, si vous, qui est invité, qui meurt de faim, qui est invité dans une salle dans laquelle il y a un repas magnifique, un banquet magnifique qui est préparé, il peut pas participer à ce banquet parce qu'il lui manque, en quelque sorte, des outils pour pouvoir s'approcher de ce banquet. C'est comme quelqu'un qui rentrait dans la salle. Toute la nourriture est sur les tables, mais il y a des vitrines, si vous voulez. Il faut avoir la clé qui ouvre les vitrines pour pouvoir accéder à la nourriture spirituelle. Mais c'est la même chose pour nous. Donc je répète cette phrase qui me semble importante en bas de la page 13. Le vêtement nuptial n'est pas la foi, comme le disent les hérétiques, car l'invité n'aurait pas pu entrer dans la salle du festin sans la foi, mais la charité et la sainteté de vie. Charité et sainteté, c'est la même chose. N'oubliez pas qu'on peut avoir la foi sans la charité, mais que l'inverse n'est pas vrai. Si on a la charité, on a ipso facto la foi. Une vie pure et sainte est comme une robe splendide et propre, tissée à partir des vertus et des bonnes œuvres, qui deviennent comme un ornement glorieux pour l'homme. En bas de la page 13, une très belle phrase de Saint Grégoire. Ne pas avoir revêtu le vêtement nuptial consiste à avoir la foi sans les œuvres de la charité, par lesquelles le Seigneur vient pour s'unir au mariage avec l'Église. Donc notre Seigneur Jésus-Christ demande à ce que nous ayons la vertu de charité pour pouvoir, profiter de la Sainte Eucharistie. Quelqu'un qui n'a pas la vertu de charité ne peut pas accéder à la Sainte Eucharistie sans commettre un sacrilège épouvantable. C'est ça le sacrilège. Sacrilège, c'est quoi ? C'est recevoir ce commande des vivants avec une âme à tête péché mortel, c'est ça un sacrilège. Donc la Sainte Eucharistie ne peut être reçue que par des gens qui sont en état de grâce, attention. Donc si je reçois, si je prétends accéder à la Sainte Table, accéder à la Sainte Eucharistie sans être en état de grâce, je suis comme cet homme qui rentre dans la salle du festin mais qui n'a pas la robe nuptiale et qui donc ne peut pas accéder à la nourriture et qui va être mis dehors parce qu'il lui manque l'essentiel. Pour saint Augustin, cela voudrait plutôt signifier l'homme qui recherche sa propre gloire au lieu de celle du Seigneur. Selon saint Hilaire, en bas de la page 13, cet habit nuptial est la grâce du Saint-Esprit. Enfin, c'est un peu la même chose, la grâce du Saint-Esprit, la charité, c'est pareil. Cet habit nuptial est la grâce du Saint-Esprit, la clarté de la conversation céleste reçue par une bonne confession et préservée sans tache pour la compagnie céleste. D'autres textes, au bout de la page 14, ici le père en question, c'est saint Jérôme. Selon lui, les œuvres remplies à partir de la loi de l'Évangile forment le vêtement de l'homme nouveau. Et ces œuvres sont symboles de la charité. Il faut les œuvres de la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit saint Jacques. Donc il faut les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, la première œuvre de la foi, c'est la charité. La foi, en quelque sorte, la structure, le premier fruit de cette structure, c'est la charité. Comme, imaginez un arbre ou une plante ou un rosier qui grandit, qui donne jamais de boutons. Comme il n'y a pas de boutons, il ne peut pas y avoir de roses, il ne donne jamais de fleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec un rosier comme ça? On le coupe, on le jette et on le brûle. Eh bien, le rosier qui pousse, c'est la foi, la fleur, c'est la charité. Et les boutons de rose représentent cette charité qui doit s'ouvrir, pas simplement avoir des boutons, mais s'ouvrir pour donner des roses magnifiques, pour pouvoir égayer et embellir tout le jardin. Donc l'homme dont les mains et les pieds sont liés, disent les pères, représente le damné qui ne peut résister à la sentence de Dieu, qui ne peut plus faire de bonnes œuvres. La bouche et l'âme, mais aussi la volonté de cet homme sont alors liées. Donc, c'est le texte du verset 13. « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon. Pourquoi cette bouche, cette âme, cette volonté sont liées? Elles sont liées par le péché. Le péché est comme un lien qui nous empêche, si vous voulez, de nous dégager. C'est comme des sables mouvants, en quelque sorte. On est pris dans les sables mouvants, on descend. Pourquoi on est entraîné vers le bas par le poids des trois concupiscences. Enfin, dernier point, verset 14, qui veut dire « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Bon, j'ai déjà un petit peu expliqué ce texte. Tous ceux qui étaient précédemment invités mais refusèrent de venir sont rejetés, c'est-à-dire tous les juifs qui ne croient pas au Christ. Et c'est surtout à eux que cette parabole fait une référence spéciale. L'homme qui est rejeté de la salle, qui était invité, est venu, est entré, mais sans le vêtement nuptial, il représente tous les mauvais chrétiens. Donc attention, cet homme sans vêtement nuptial, c'est pas simplement le juif qui refuse de se convertir, c'est aussi le catholique qui n'est pas fidèle aux promesses de son baptême. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ demande davantage à un catholique qu'aux juifs de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup plus ces juifs de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le baptême, ils n'avaient pas la Sainte Eucharistie, ils n'avaient pas le sacrement de pénitence, ils n'avaient pas la Sainte Messe. C'est rien du tout. Et oui, ils avaient les purifications dans l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas les sacrements. Les sacrements, par définition, sont des fruits directs du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de sacrements, strictement parlant, dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons beaucoup plus reçu, et donc le bon Dieu sera beaucoup plus exigeant avec nous qu'il l'a été avec les Juifs. Et regarde déjà ce qui s'est passé, comment notre Seigneur Jésus-Christ a châtié les Juifs par la destruction complète de la ville de Jérusalem en 71 par l'empereur Titus. Alors, si les Juifs, qui avaient beaucoup moins reçu que nous, ont été châtiés parce qu'ils n'ont pas été fidèles à ce qu'ils avaient reçu, à combien, à plus forte raison, nous serons-nous châtiés si, en tant que catholiques, nous ne répondons pas avec beaucoup plus d'amour à toutes les grâces que le bon Dieu nous a données, grâces qu'il n'a pas données aux Juifs, attention. C'est pour ça qu'il faut, encore une fois, ne pas se gargariser des juifs, et puis d'oublier que nous avons nous aussi nos responsabilités. Un catholique qui vit dans le péché mortel, c'est bien plus grave qu'un juif qui vit dans le péché mortel. Parce que le catholique qui vit dans le péché mortel, il a avec lui tous les sacrements. Il peut facilement sortir du péché mortel par le sacrement de pénitence. Le juif de l'Ancien Testament, comment veut-il qu'il sorte du péché mortel? Il n'y a pas de sacrement de pénitence. Donc pensons un petit peu, mes chers frères, à nos responsabilités là-dessus. Voilà, nous allons donc terminer cette belle parabole du chapitre 22, versets 1 à 14. Je vous conseille beaucoup à ceux qui écoutent sur Internet, donc de relire maintenant, après avoir profité, j'espère, de ces explications des pères, donc de relire lentement la parabole que vous avez à la page 11 sur le polycopier, versets 1 à 14 du chapitre 22. Nous avançons. Chapitre 22, versets 15 à 22. Alors les pharisiens s'étant retirés, tinrent conseil sur le moyen de surprendre Jésus dans ses paroles. Et ils lui envoyèrent leurs disciples avec les Hérodiens qui lui dirent, « Maître, nous savons que vous êtes véridique et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité sans vous inquiéter de personne. » Car vous ne regardez pas la condition des hommes. Dites-nous ce qu'il vous en semble. Est-il permis de payer le tribut à César ou non? Mais Jésus, connaissant leur malice, dit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et Jésus leur dit, « De qui est cette image, cette inscription ?» Ils lui dirent, « De César. » Or il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration et le laissant, ils s'en allèrent. Alors ce texte est un peu plus compliqué, il faut bien l'expliquer parce qu'il est utilisé par les ennemis de l'Église et par les modernistes, c'est les mêmes d'ailleurs, pour essayer de faire croire aux catholiques qu'il faut séparer l'Église et l'État. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, disent-ils, le bon Dieu ici fait bien la séparation entre les choses politiques, César, et les choses religieuses à Dieu. Donc il ne faut pas d'union entre la religion et la politique. Ce qui est complètement faux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde dans le monde moderne. Et donc, il est évident qu'il faut une union entre l'Église et l'État. De la même façon qu'il faut une union entre le corps et l'âme. S'il y a une séparation entre corps et l'âme, on n'a plus d'état, on n'a plus de corps humain, on a un cadavre. Donc il faut une union, évidemment, entre l'Église et l'État, c'est absolument indispensable. C'est tous nos malheurs viennent de là, tous les malheurs, la révolution, c'est quoi la révolution? C'est d'abord la séparation de l'Église et de l'État. La République française, qu'est-ce qu'elle est? Elle est laïque. Ça veut dire quoi, laïque? Ça veut dire sans Dieu, sans aucune influence divine. Ou plus exactement, sans aucune influence divine dans le secteur public. On peut accepter, tolérer une influence divine dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public. Et dans les âmes, en privé, très bien, faites ce que vous voulez chez vous. Mais publiquement, notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à dire. Et donc, le gouvernement moderne nous dit que le bon Dieu n'a rien à dire sur l'avortement, sur les droits des sodomites, sur le divorce, sur le contrôle des naissances, sur l'avortement, sur toutes ces horreurs. Eh bien, je suis désolé, mais il faut l'union de l'Église et de l'État. Et c'est bien ce que dit ce texte. Alors, voyons un petit peu les explications des pères de l'Église, donc à la page 14. Donc, tout de suite, répondons à l'objection que dont je viens de parler. Quand vous entendez cet ordre de rendre à César ce qui est à César, disent les pères, sachez que cela ne concerne que les choses qui ne sont pas en opposition avec la religion. Car si c'était le cas, ce serait rendre non à César, mais au démon. C'est-à-dire que si l'État, le gouvernement, nous demande des choses qui vont contre la foi et les mœurs, contre la loi naturelle, nous n'avons pas le droit d'accepter ces choses-là. Il faut se battre pour dire non. Alors voyons un petit peu d'autres explications des pères. Il y a trois moyens, disent-ils, qui permettent à quelqu'un de ne pas dire la vérité. De la part du maître qui pourrait ne pas connaître ou ne pas aimer la vérité. Contre cette tentation, on lit dans le texte, nous savons que vous êtes véridiques. Du côté de Dieu, quelques-uns mettant de côté la crainte de Dieu ne prononcent pas honnêtement la vérité qu'ils connaissent le concernant. Pour exclure cela, il est dit, vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité. Et du côté du prochain, quand par peur ou affection, retient la vérité. Alors il est dit, sans vous inquiéter de personne, car vous ne regardez pas la condition des hommes. En fait, n'oublions pas que les pharisiens ici qui viennent, ne viennent pas pour connaître la vérité, ils viennent pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est marqué dans toute lettre dans l'Évangile, au verset 15, les pharisiens tinrent conseil sur le moyen de le surprendre dans ses paroles. Ils ne cherchent pas le vrai. Quand on a en face de nous des gens qui ne cherchent pas les vrais, ça ne sert à rien de discuter avec eux. On attend. C'est comme un petit peu quand vous discutez, quand vous êtes abordé par les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une seule chose, ça va être le trouble dans votre âme. C'est pas pareil. Ils ne cherchent pas la vérité. La vérité s'en fiche. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est mettre le trouble dans votre âme et vous faire abandonner la foi catholique. Donc on ne discute pas avec le démon. Quand on est obligé d'être proche du démon, près du démon, il veut utiliser quand on. La phrase c'est quand on est obligé d'avoir mangé la soupe avec le démon, il vaut mieux prendre une longue cuillère. Je sais plus qui disait ça. Il vaut mieux avoir une longue cuillère. Et c'est vrai, il faut se protéger des ennemis de l'Église. Il faut prier pour eux, c'est de les convertir, mais s'en protéger pour pas être nous-mêmes complètement détruits par eux. Donc je répète cette phrase clé du deuxième paragraphe en bas de la troisième paragraphe avant la fin, le bas de la page 14. Quand vous entendez cet ordre de rendre à César ce qui est à César, sachez que cela ne concerne que les choses qui ne sont pas en opposition avec la religion. Car si c'était le cas, ce serait rendre non à César, non à César, mais au démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu passe avant tout. Voilà ce que ça veut dire. Dieu passe avant. On entend parfois des gens nous dire mais on est d'abord républicain avant d'être catholique. Mais pas du tout. On est d'abord catholique avant d'être républicain. Parce que la religion catholique, c'est le respect, l'obéissance due à Dieu. C'est bien plus important que le respect, l'obéissance due à Macron. Pas du tout pareil. On n'est pas d'abord français, puis républicain, puis catholique. On est d'abord catholique. Le reste, je dirais, c'est relativement secondaire. C'est vrai qu'on est français, qu'il faut être fier de notre pays, c'est sûr. J'ai encore de quoi être fier dans le pays. Mais demandons, bon Dieu, justement, d'avoir cette fierté de la foi catholique. Évidemment, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans l'Église catholique d'aujourd'hui, mais il y a de quoi avoir honte. Encore, je crois qu'on est tombé au fond du gouffre. J'ai eu un texte, je n'ai pas réussi à le retrouver. Je voulais le retrouver pour vous en parler là pendant comme commentaire de ce texte d'Évangile, et j'ai pas retrouvé le texte. C'est Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, là, qui se fait agonir d'injures par les évêques italiens parce que dans un discours, il a sorti le chapelet et parlé de la Sainte Vierge et du Pape. Et au lieu que les catholiques, les leaders soi-disant catholiques de l'Église de Vatican II, félicitent Salvini d'avoir parlé du chapelet de la Sainte Vierge, c'est pas Macron qui aurait sorti un chapelet pour un discours. Salvini l'a fait, même si peut-être qu'il n'est pas très grave, j'en sais rien. Mais il a quand même eu le courage de parler du chapelet, sortir le chapelet, parler de la Sainte Vierge et parler du chapelet en plein discours politique. Eh bien, les évêques de Vatican II, Italiens se sont plaints de ça en disant que c'était du. Je ne sais plus le terme utilisé exactement, mais que c'était une combine électorale. Mais pas du tout. Il y a le devoir de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. De l'autre côté, disent les pères, les Hérodiens accordaient trop d'indulgence au corps. Mais notre Seigneur ne veut ni que ce devoir ne soit affaibli par une dévotion immodérée à la chair, ni que notre nature charnelle ne soit opprimée par nos efforts ininterrompus pour posséder la vertu. Dire quoi? Il faut de l'équilibre. Celui qui fait faire l'ange fait la bête. On est corps et âme, donc il faut s'occuper des deux. Il faut s'occuper de notre corps, il faut s'occuper de notre âme. Mais en plaçant l'âme au-dessus du corps, parce que la partie surnaturelle, spirituelle chez nous, est plus importante que la partie naturelle et temporelle. Donc l'âme est plus importante que le corps. Parce qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et c'est pas notre âme qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est pas par le corps. Donc il y a un devoir pour nous d'équilibrer les deux choses. Quelqu'un qui passerait sa vie à prier et qui refuserait de considérer qu'il a un corps, eh ben il va finir par mourir d'inanition, parce que j'ai connu des catholiques comme ça, qui faisaient tellement pénitence que ils ne s'occupaient plus de leur corps, ils n'avaient qu'à mépris pour leur corps. Mais bon, Dieu ne nous a pas demandé de mépriser notre corps, il nous a demandé aussi de nous occuper de notre corps. Il ne faut pas que le corps prenne la place de l'âme, prenne importance, trop d'importance dans notre nature, bien sûr que non. Mais on est bien obligé de s'occuper aussi de notre corps. Donc, je connais bien des personnes qui sont parfois très imprudentes parce qu'elles ne prennent pas le sommeil dont elles ont besoin, parce qu'elles ne prennent pas le minimum de repos dont ils ont besoin, parce qu'ils ne prennent pas le minimum de nourriture, ils mangent n'importe quoi, ils sont malades tout le temps parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour protéger un peu leur corps, surveiller un petit peu leur corps. Bien sûr, il ne faut pas s'occuper que du corps. Le corps est au service de l'âme et pas l'inverse. Donc le prince de ce monde dont parle le texte de l'évangile, le démon, est appelé César. Nous ne pouvons pas alors rendre à Dieu les choses qui sont à Dieu sans avoir d'abord rendu au démon tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire sans avoir d'abord rejeté toute malice. Nul ne peut servir de maître à la fois, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc si votre âme est remplie de choses mondaines, il n'y a plus de place pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc attention à ça. Apprenons ainsi, disent les pères, que face à ceux qui nous tentent, nous devons ni être totalement silencieux, ni répondre ouvertement, mais avec précaution, couper court avec toutes les occasions de ceux qui cherchent à nous faire tomber, et enseigner sans honte les choses qui pourraient sauver ceux qui veulent l'être. Donc attention, encore une fois, là, aux occasions prochaines volontaires de péché. Je garde dans ma vie une occasion prochaine volontaire de péché grave, eh bien je tombe dans le péché de présomption, et je ne peux pas rester en état de grâce. Donc attention à ce texte. Donc ce texte ne veut en aucun cas dire qu'il faut séparer la religion de la politique. Il faut une union entre l'Église et la religion. Encore une fois, je pense que certainement le texte le plus important sur ce sujet, je ferai un jour que je vous l'explique à fond, si Dieu veut, c'est le texte du pape Pie IX, le Syllabus et le Quanta Quorum 1864, je crois. Ce sont des textes fondamentaux, justement, qui expliquent toutes ces choses-là très très bien. Quant à Courant, c'est la grande condamnation de la liberté de conscience. Une insanité, une liberté de perdition, dit Pie IX. Pas n'importe quoi. Et dans son syllabus, je n'ai pas là sous les yeux, mais je crois que c'est la proposition numéro 50, donc proposition condamnée, il dit bien que l'Église et l'État doivent être séparés, c'est la proposition condamnée, donc l'Église et l'État doivent être unis, comme le corps et l'âme sont unis. Donc il condamne, le pape Pie IX condamne dans le syllabus ceux qui prétendent qu'il faut séparer l'Église et l'État. Page 15. Sur le polycopier, texte de Tertullien. Rendons l'image de César qui est dans l'argent à César, mais l'image de Dieu qui est dans l'homme à Dieu. Donc, si vous voulez, notre comparaison, César qui représente plus la chose des choses matérielles, et Dieu, et l'image de Dieu qui représente beaucoup plus les choses surnaturelles, les choses spirituelles. Si nous n'avons rien à notre possession qui appartienne à César, alors nous sommes libérés de l'obligation de donner ce qui lui appartient. Si vous voulez ne plus être obligé par l'impôt à César, renoncer à tout, comme le Christ et les apôtres l'ont fait, car là où il n'y a rien, César n'a aucun droit. Un père de l'Église qui explique que ce combat entre l'âme et le démon représente le combat entre deux lutteurs, si vous voulez. Et bon, c'est une image qui est utilisée par un père de l'Église, je ne me rappelle plus lequel, je crois que c'est Saint Grégoire, mais je ne suis pas sûr, qui dit que lorsque deux lutteurs se luttaient dans l'ancien temps, ils luttaient à moitié nus. Pourquoi ? Pour ne pas avoir de vêtements par lesquels on puisse les saisir. Donc si on se bat contre quelqu'un qui a des vêtements, eh bien l'adversaire peut saisir le vêtement et vous faire tomber. Et donc, les lutteurs, non seulement se luttaient sans habit, mais en même temps, ils soignaient leur peau d'huile pour que justement ne présenter aucun moyen pour l'adversaire de les saisir, pour pouvoir ainsi plus facilement échapper à l'étreinte de l'ennemi. Eh bien, c'est un peu la même chose quand nous voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut peut-être commencer par mettre en dehors de notre âme tout ce qui n'appartient pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Si je prétends suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais que mon âme est envahie de choses matérielles, comment voulez-vous que le bon Dieu puisse faire quelque chose? Il n'y a plus de place pour lui. On dit, mon Dieu, je vous aime. On dit, mon Dieu, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais en fait, quand le bon Dieu regarde dans notre âme est pleine de choses matérielles. Il va me dire, mais c'est pas moi que tu aimes. C'est le monde. Tu aimes la chair, tu aimes la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, l'orgueil. C'est pas moi que tu aimes. Regarde, il n'y a même plus de place pour moi. Comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit pour toi, puisque ton âme est pleine de choses matérielles? C'est pour ça que les seuls hommes qui sont parfaitement libres, les seules personnes qui sont parfaitement libres, sont les gens justement qui ont, par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, qui ont mis dehors toutes les choses qui sont utilisées par le démon pour entraîner les âmes vers l'enfer. Donc c'est les trois vœux de pauvreté contre la concupiscence des yeux, le vœu de chasteté contre la concupiscence de la chair, et le vœu d'obéissance contre l'orgueil. À ce moment-là, on a la véritable liberté. Donc quelqu'un qui est parfaitement libre, c'est quelqu'un qui est sous ces trois vœux. Alors qu'au contraire, le monde moderne va vous dire, quelqu'un qui est sous vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, c'est un esclave. C'est pas du tout l'esclavage. Qu'est-ce qui est esclave dans l'histoire? Ceux qui sont esclaves sont ceux qui sont justement sous la coupe du démon. Le démon nous tient par ces trois chaînes, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil. Et donc celui qui est libre, celui qui coupe les trois chaînes, il coupe les trois concupiscences par les trois vœux ou l'esprit des trois vœux, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et c'est là où on trouve la véritable liberté. Oh, la page 15, tropologiquement, moralement. Saint Hilaire, nous devons rendre à Dieu les choses de Dieu, notre corps, notre âme et notre volonté. Car la monnaie de César est en or, sur laquelle son image est gravée, mais la monnaie de Dieu est l'homme, et sur elle est gravée l'image de Dieu. Donnez votre argent à César, mais gardez pour Dieu la conscience de votre innocence. Donc rendez à César tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui appartient à César? Ce qui appartient à César, c'est quoi? C'est les concupiscences. Les yeux, la chair, l'orgueil. Ça, vous pouvez rendre à César. Donnez à César. Mais donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Rappelez-vous le texte. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César les trois concupiscences et donnez votre âme au bon Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Ici, j'ai un texte de Saint Augustin, en haut de la page 15. À Dieu doit être donné l'amour chrétien, au roi la crainte humaine. Puis un texte de Saint Bernard. Rendez à César la monnaie qui est à l'image de César, mais rendez à Dieu l'âme qu'il a créée d'après sa propre image et ressemblance, et vous serez juste. Le drame du monde moderne, c'est justement de donner à César ce qu'on devrait donner à Dieu, et de donner à Dieu ce qu'on devrait donner à César. Rappelez-vous Saint Rémy avec Clovis, au moment de son baptême en 496, au moment du baptême de la France. Courbe la tête, fière sycambre, boule ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Ce qu'il faut brûler, vous pouvez le donner à César. Ce qu'il faut adorer, vous le gardez pour le bon Dieu. Symboliquement, nous rendons à César les choses qui sont à César quand nous payons au saint la révérence qui leur est due par le culte de Dulli. Et nous donnons les choses de Dieu à Dieu quand nous lui rendons cette adoration divine qui n'est due qu'à lui, qu'on appelle le culte de latrie. N'oubliez pas une des fins de la messe, la fin latretique. Ça vient du mot latrie. Latretique, latrie, c'est la même racine, c'est-à-dire la fin d'adoration. Donc on adore Dieu seul. Le culte au saint n'est pas un culte d'adoration, c'est pour ça qu'on appelle ça le culte de Dulli. Pour la Sainte Vierge Marie, c'est un culte d'hyper-Dulli, qui n'est pas un culte d'adoration. L'adoration n'est due qu'à Dieu seul. Alors, nous avançons encore un peu. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer ce chapitre 22, sans doute pas, mais on va quand même avancer. Page 15, versets 23 à 33 du chapitre 22 de Saint Matthieu. Ce même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de lui et l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier ayant épousé une femme, mourut, et n'ayant pas eu de postérité, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, le troisième jusqu'au 7e. Enfin, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, puisque tous l'ont eue? Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, ne comprenant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et les foules, entendant cela, étaient dans l'admiration de sa doctrine. Donc là, notre Seigneur explique un peu la loi du Lévirat. Enfin, les Sadducéens viennent présenter l'objection de la loi du Lévirat. Et notre Seigneur Jésus-Christ répond correctement en expliquant bien qu'au ciel, on n'y est pas. Au ciel, on a une vie détachée justement de toutes les choses matérielles. C'est difficile à comprendre, mais on peut donner l'exemple du mariage. Vous aimez votre épouse tendrement, vous aimez votre époux tendrement, mais après la mort, vous serez plus mari et femme. Vous serez plus mari et femme parce que le sacrement de mariage, le lien du mariage est rompu par la mort. Donc souvent, faut faire un petit peu attention à la façon dont on explique ça, parce que ça décourage les gens. Parfois, les gens me disent, monsieur l'abbé, je viens de perdre mon époux, mais heureusement, je l'ai retrouvé au ciel. C'est vrai, mais vous le retrouverez au ciel pas comme époux. Puisqu'au ciel, il n'y a plus de gens mariés, le mariage étant détruit par la mort. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères, en bas de la page 15. Le démon ne pouvant pas détruire complètement la religion de Dieu, provoqua l'arrivée de la secte des Sadducéens, qui niait la résurrection des morts, détruisant ainsi le principe même d'une vie vertueuse. Car qui accepterait d'endurer les combats quotidiens contre lui-même sans l'espoir de la résurrection? On peut dire que dans le monde moderne, il y a plein de Sadducéens. Donc, parce que le monde moderne, les gens du monde moderne nient toute vie surnaturelle, toute vie après la mort. Ils pensent que tout s'arrête au trou du cimetière. C'est évident que si tout s'arrête au trou du cimetière, alors il faut en profiter au maximum. Profitons de la vie, la vie est belle, puisque tout s'arrête, la vie est courte, donc profitons-en au maximum. C'est pas du tout ce que prêche notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement, nous sommes des êtres d'éternité. Alors, que représentent ces 7 frères dont parle l'évangile ici? Mystiquement, en bas de la page 15, par ces 7 frères, on doit comprendre les mauvais, qui ne peuvent pas produire de fruits de justice sur la terre durant les 7 âges du monde. Or, cette terre doit un jour disparaître, avec elle, ces 7 âges qui n'ont pas donné de fruits. La connaissance de Dieu vient de la diligence à lire et à étudier, alors que l'ignorance est la conséquence de la négligence. Toutes les vertus sont les actions angéliques, surtout la chasteté, par laquelle notre nature est unie aux autres vertus. Attention à cette petite phrase qui me semble, il y a un détail là qui me semble bien important. L'ignorance est la conséquence de la négligence. Rappelez-vous que l'ignorance est une des causes premières du modernisme. L'ignorance, l'orgueil, la curiosité, dit Saint Pidis. Donc la meilleure façon de lutter contre cette ignorance, bien cher frère, c'est précisément d'étudier. Nous avons devoir d'étudier. Nous arrivons à la période estivale bientôt, dans un mois c'est l'été, donc demandons. Il faut, mes bien chers frères, que vous prépariez un petit peu vos vacances, au lieu d'être comme tous ces gens modernes qui passent leur vie, toute leur année à préparer leur soi-disant, leur miraculeux congé payé. Il n'y a plus que ça qui compte. Les congés payés, le 13e mois. Eh bien, pensez à utiliser ces vacances pour nourrir votre âme et nourrir votre intelligence. Comme nous avons besoin, mes bien chers frères, besoin de former notre intelligence pour ne pas nous laisser en quelque sorte contaminer par tous les miasmes de l'ignorance du monde moderne. Voilà, donc je vais arrêter là, je ne vais pas avoir le temps de terminer ce chapitre 22 comme je l'aurais voulu. Mais je ne veux pas trop dépasser l'heure, surtout pour des cours d'exégèse qui demandent déjà une certaine attention. Donc nous allons terminer par une prière. Je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.